Bonjour et bon dimanche. Noël Ruffieux au micro de Coin de Ciel. Aujourd'hui, nous allons parler du vertige. Non, Coin de Ciel n'est pas devenu une émission médicale, ni un cours du club alpin pour la prévention des accidents de montagne. Et comme le dit mon dictionnaire, le vertige est l'impression par laquelle une personne croit que les objets environnants et elle-même sont animés d'un mouvement circulaire ou d'oscillations qui peuvent lui faire perdre l'équilibre. C'est une impression très désagréable, désécurisante, qui nous trouble profondément et nous fait perdre pied. Le vertige en montagne peut être mortel. Alors que vient faire ici la philosophie, comme le suggère le titre de mon émission ? À l'instar d'autres techniques de bien-être, destinées à conjurer nos sentiments de mal-être, la philosophie serait-elle une panacée, ou bien plus modestement, nous aiderait-elle à poser les vraies questions et, partant de là, à nous lancer à la quête de quelques réponses ? Il y a un an, apparu aux éditions du Cerf à Paris, un livre intitulé « La philosophie comme exercice du vertige ». Son auteur est un de mes amis, François Gachou, qui fut longtemps professeur de philosophie au Collège du Sud à Bulle. Sa retraite très active lui permet de tirer profit et leçons de son enseignement, mais aussi de sa longue expérience de l'alpinisme et, somme toute, de son existence. Il avait publié en 2007 un livre assez étonnant, « Sagesse de la montagne, une expérience intérieure », et la même année paraissait à Paris un autre livre, « Par-delà l'athéisme », fruit en particulier de relations intellectuelles et amicales avec quelques philosophes français d'aujourd'hui. Et en 2011, le livre dont nous parlons aujourd'hui. François Gachou est connu aussi pour la chronique philosophique qu'il tient régulièrement dans le quotidien « La Liberté » de Fribourg. Je voulais le rencontrer autour de son livre, dont la lecture m'a intrigué et fait réfléchir. Je précise que François Gachou est un ami de longue date, plus de 50 ans, et cette amitié justifie que dans cet entretien, nous ayons dérogé à la règle qui veut que dans les émissions Coin de Ciel, les interlocuteurs se vouvoient. François, ton livre « La philosophie comme exercice du vertige » fait le tour de l'existence humaine avec toutes ses facettes, ses bonheurs et ses épreuves. Et pour visiter le royaume de l'homme, tu offres une quinzaine de portes. Ou plutôt, selon le titre, je crois qu'il est préférable de dire une quinzaine d'exercices pour essayer d'être humain. Au premier abord, on a l'impression d'une démarche analytique, à chaque fois étant traitée une expérience ou une valeur de la vie humaine. En réalité, chaque porte ouvre sur l'ensemble du mystère de l'homme. En effet, comment, par exemple, parler de l'amour sans parler de la connaissance, du désir, de la liberté, du temps, de la mort ? Comment parler de la foi sans évoquer le doute, la connaissance, l'amour, la liberté, le mal ? Mais dis-nous comment est née cette démarche et comment s'est constitué ce livre ?
Cette démarche, Noël, elle est née d'abord de mes propres interrogations sur l'existence, et j'ajoute tout de suite de mon existence en relation avec ma vie. La fameuse question « Qui suis-je finalement ? Qu'est-ce que je fais là sur cette terre ? Pourquoi suis-je né ? Pourquoi suis-je moi et pas un autre ? Pourquoi ne suis-je pas né il y a 2 siècles ou 3 ? J'aurais pu naître en Asie, j'aurais pu naître en un autre temps. Mais voilà, je suis né dans le XXe siècle. Et puis, j'aurais pu ne pas exister. Alors, je me suis demandé, mais qui est à la source? Qui est à l'origine des existences humaines? Je me suis aussi demandé, et j'étais voulu, au-delà certes du désir de mes parents, par l'auteur de l'existence et de la vie, par le créateur, et j'étais voulu par Dieu, est-ce par lui que ma vie peut prendre un sens? Ce sont des questions que je me suis posées assez vite, et surtout pendant mon adolescence. D'autre part, je me suis assez vite aperçu que je suis libre. J'ai le privilège humain de la liberté, de la responsabilité de ma recherche et de mes choix. C'est à moi de choisir le sens à donner à ma vie, c'est à moi de la construire. Et je crois que tous les humains se posent et peuvent se poser ces questions. Et en cela, je voulais dire à travers ce livre que nous sommes tous philosophes, que nous pouvons tous le devenir. Un peu plus tard, en choisissant de devenir professeur de philosophie, je souhaitais ouvrir les intelligences à cette quête. Et j'ai enseigné durant 35 ans aux étudiants qui préparaient leur bac en entrant en philosophie. Bien entendu, dans les cours de philosophie, on est assez systématique, c'est-à-dire qu'on essaye non seulement d'éveiller au questionnement que je viens d'évoquer, mais on étudie des systèmes de pensée copieux, profond, puissant, comme Platon, Aristote, les stoïciens, Kant, Marx, Heidegger, Michel Foucault et d'autres, Mais ces systèmes de pensée sont tout de même abstraits. Ils sont difficiles d'accès et rares sont ceux qui peuvent y plonger. La vraie philosophie se trouve-t-elle là ? Paradoxalement, je me suis mis à conclure que ces grands systèmes, si beaux, si grands, si forts soient-ils, ne nous aident pas nécessairement à donner un sens à notre vie personnelle en nous demandant, et là je lance quelques thèmes existentiels, le fameux « qui suis-je ? Que vais-je faire de mon existence, la mienne ? Que vais-je faire de ma liberté puisque j'ai ce privilège des choix ?» Et puis, qu'est-ce que c'est vivre véritablement? Qu'est-ce que c'est aimer? Comment aimer? Et la relation réelle de l'amour, pas la théorie sur l'amour, pas la théorie sur la liberté, pas la théorie sur vivre, mais éprouver cela. Ici, il nous arrive un jour, pour prendre un autre exemple existentiel, d'éprouver de l'angoisse. Qu'est-ce que ça veut dire? L'angoisse qui n'est pas la peur, mais un certain vertige devant la douleur néantisante d'une vie remise en question, parfois jusqu'au désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment intégrer ça à mon parcours pour en tirer un enseignement positif? Qui d'entre nous ne s'est un jour interrogé sur la mort? Sur comment allons-nous la traverser? Est-ce que c'est quelque chose qui fera sens et qui ne sera pas simplement la négation de tout, l'absurdité? Quel sens? Comment donner un sens à cette traversée mystérieuse sur laquelle nous n'avons aucune prise? Ce qui nous conduit peut-être là, justement, à la question de la foi. Il n'est jamais évident de faire le choix de croire ou de ne pas croire. J'ai des amis athées qui ont fait le choix de ne pas croire et qui mènent aussi une vie de recherche du sens. A-t-on, indépendamment de la foi religieuse, a-t-on besoin de croire en quelque chose, en quelqu'un? Qu'est-ce que croire? Qu'est-ce que la foi vient faire dans notre vie au niveau du sens? Pour résumer, le livre « La philosophie comme exercice du vertige » ne cherche rien d'autre qu'à proposer ces exercices-là autour de ces thèmes-là pour ouvrir des pistes afin de mieux s'interroger soi-même sur la quête du sens qui nous est confié puisque c'est le propre de l'homme. Thank you.
François, j'ai remarqué dans ton livre que tu emploies le mot « vertige » plutôt que le mot « étonnement », alors qu'on parle souvent d'étonnement en parlant de la démarche philosophique. Est-ce que parce que dans la vie humaine, tu découvres plus les abîmes, sources de vertige, que les routes planes ou les sentiers champêtres ? En dehors de ta longue pratique de l'alpinisme, qu'est-ce qui te rend si sensible à ces abîmes ?
Eh bien, je crois qu'on n'entre pas en philosophie par les grands traités savants des philosophes. Ces traités savants sont difficiles d'accès, abstraits, et peu les étudient ou peuvent les étudier parce qu'ils n'ont pas fait d'études, alors que nous pouvons tous nous interroger et nous devons tous nous interroger sur la quête du sens. Alors je crois qu'on entre en philosophie par la première expérience que les philosophes ont tant célébré depuis Pythagore, Platon, Aristote, etc., l'expérience de l'étonnement. Les philosophes ont en effet pensé que l'expérience de l'étonnement est le point de départ de toute forme de questionnement quand il est philosophique. Et je crois qu'ils ont raison. Si on ne sait pas s'étonner de quelque chose, la question ne surgit tout simplement pas. Et j'ai toujours aimé constater que les enfants, dès là que leur intelligence s'éveille, s'étonnent de tout ce qui est autour d'eux parce qu'ils le découvrent et parce qu'ils ne comprennent pas. Alors ils posent des questions sur le comment, sur le pourquoi des choses et souvent des questions très profondes qu'on appelle aussi métaphysiques. Et parfois, nous le savons bien, les parents ne trouvent pas toujours les réponses. Alors, l'expérience de l'étonnement est en effet une manière d'entrer en philosophie. Alors, je ne voulais pas répéter simplement ce que la tradition des philosophes a déjà largement répondu. Je voulais m'interroger sur le vertige comme une expérience différente de l'étonnement, qui prolonge, je dirais, l'interrogation de l'étonnement, mais qui a ceci de particulier, que le vertige nous saisit, nous happe d'un coup, souvent imprévisible, en nous plongeant directement au cœur d'un questionnement fort. Nous sommes dedans, nous sommes dans la question, nous devons la vivre sans pouvoir y échapper. Et alors nous demandons, mais comment répondre ? Pourquoi suis-je là ? Suis-je né sans avoir demandé à venir au monde ? Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est vertigineux devant les possibles. Autre exemple tout simple, mais dramatique, celui-là. Pourquoi celui ou celle que j'aime le plus au monde m'a été soudainement enlevé dans un accident mortel ? Qui n'aurait pas le vertige devant pareille épreuve ? Et nous savons bien que nous tous dans la vie, nous traversons parfois des épreuves où nous sommes ébranlés au plus profond de notre être. Et si j'ai choisi ce thème du vertige, c'est parce que j'aime beaucoup le philosophe danois Kierkegaard qui dit que le vertige est toujours un ébranlement de tout l'être. Que par le vertige, au fond, nous sommes retournés complètement. C'est d'ailleurs ce que veut dire le verbe latin « vertere » qui donne naissance au mot vertige, désignant par là un sentiment sans doute plus profond que l'étonnement, parce qu'il nous ébranle jusqu'au fond. Et ce sentiment a quelque chose d'indéfinissable. Soudain, la raison bascule, nous perdons pied, nous perdons nos repères. Et en ce sens-là, le vertige nous saisit complètement et nous ne pouvons pas ne pas être interpellés par des expériences vertigineuses et nous cherchons des réponses que nous ne savons pas facilement donner. Alors, dans le vertige, il y a quelque chose de négatif parce que nous faisons l'expérience d'une certaine impuissance devant ce qui nous dépasse et que nous sommes bousculés. Mais il y a aussi dans le vertige, à mon avis, trois raisons très positives. La première raison, je dirais, le vertige, il nous arrache au caractère routinier, automatique de nos vies qui se déroulent platement. Il nous arrache au confort, il nous arrache à l'indifférence, il nous arrache aux habitudes acquises, il nous réveille en un mot et nous pousse à trouver des réponses plus authentiques. Il nous pousse à chercher la vérité du réel et pas du virtuel. ou du confort des habitudes. Deuxième raison, je dirais que le vertige nous rend disponible à accueillir les événements de la vie comme ils viennent, parce que parfois ils sont très imprévisibles. Et ils nous invitent à chercher à travailler sur nous-mêmes pour quêter, à travers les événements qui nous arrivent, le sens de notre chemin. Aucune vie n'est écrite avec des lignes droites. Il y a parfois des impasses, il y a parfois des soubresauts, il y a parfois des plongées dans l'inconnu sur ce chemin de la vie. Nous le savons tous. Et troisième raison positive de l'expérience du vertige, je dirais que la vie est faite d'interpellations. Elle est faite de rencontres. Je viens de parler de l'imprévisible. Qui n'a pas un jour rencontré quelqu'un qui l'a marqué? Qu'il s'agisse d'une personne aimée pendant des années, qu'il s'agisse d'une amitié profonde avec deux ou trois autres personnes sur lesquelles nous pouvons compter, ou qu'il s'agisse de rencontres absolument fortuites, mais qui ont des conséquences parfois considérables. Le vertige, je crois, peut être alors un appel à l'invention de soi dans la relation aux autres, à la société, peut être un appel au remodelage de nos choix, peut être un appel aux vertus de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire cette capacité de rebondir après des échecs et des erreurs, qui n'en a pas fait. Permettez-moi de citer ici deux philosophes brièvement. Heidegger, le philosophe allemand Heidegger, dit « Au fond, le propre de l'homme, qu'est-ce que c'est par rapport à l'animal ?» Eh bien, c'est de prendre conscience de deux choses. Exister, naître à l'existence, c'est surgir, dit-il, du néant. Pour répondre à la quête de tous les possibles que la vie nous offre. Nous sommes, quand nous naissons, au seuil de tant de possibles, et nous venons de quelque chose qui nous a précédés, mais nous n'étions pas encore là, et nous ne savons pas d'où vraiment nous surgissons, sinon que nous commençons à être devant tous ces possibles. Donc, c'est pour ça qu'il dit « nous surgissons du néant ». « Existerait », être extrait du néant pour être. Et puis deuxièmement, conscience d'une deuxième chose, l'homme est le seul être en qui se déploie la conscience de la question du sens de l'existence. Les animaux ne peuvent pas se poser cette question et c'est comme ça. Donc l'homme est cet être qui est lui-même compris dans la question de l'existence. Nous sommes à nous-mêmes une grande question. Et si nous prenons conscience de ça, dit Heidegger, vertige. Le deuxième philosophe que je citerai, c'est Kierkegaard, dont j'ai déjà évoqué le nom, qui dit que, il emploie aussi le verbe surgir, il dit exister, c'est surgir face au déterminisme qui nous conditionne, nous sommes conditionnés par la matière, l'espace, le temps, la société, etc. Alors c'est surgir face à ces déterminismes pour trouver qui nous sommes là-dedans. C'est un commencement absolu à construire, exister. Nous avons ce pouvoir inouï, dit Kierkegaard, d'être libres et donc de décider nous-mêmes de nos raisons de vivre. Nous existons, dit-il, dans l'acte par lequel nous définissons nous-mêmes notre trajectoire, notre style. Nietzsche reprenait l'expression de Kierkegaard en disant « Exister, c'est un style ». Alors évidemment que ces vertiges-là ne peuvent pas nous dispenser de l'expérience d'un certain abîme. Nous côtoyons un certain abîme.
En t'écoutant, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que l'abîme, d'abord à la fois, est quelque chose et en même temps n'est pas, puisque d'une certaine manière, c'est un obstacle d'un côté, et puis c'est aussi une absence, un trou, un vide dans l'espace. C'est donc à la fois comme un défi, comme tout obstacle, et puis une menace, comme tout vide. Et ça m'a frappé parce que dans ton premier chapitre, tu appliques cette image à l'existence en écrivant, j'aime beaucoup cette formule, « vertige de se découvrir au seuil des possibles avec ce sentiment de vide, d'espace sans fond qui caractérise celui qui se tient au bord du précipice et décide d'assumer le risque de jouer sa vie en bordure d'abîme ». Et puis en même temps, au deuxième chapitre, alors, l'abîme prend la forme du doute, me semble-t-il. Lorsque tu dis « le vacillement de la prétendue certitude acquise ». Alors, est-ce que le chemin de la connaissance prend naissance dans ce doute initial ou dans ce vertige du doute ?
Nous sommes là, je crois, au cœur de l'intention profonde que j'avais en écrivant ce livre. Et permets-moi peut-être, en évoquant l'abîme que le vertige provoque et qu'il appelle en même temps, de citer peut-être cette célèbre phrase de Newton qui, peu avant de mourir, disait, Newton, le grand physicien qui pendant des années a cherché par sa raison, à expliquer la loi de gravitation comme tout le monde sait. Alors, Newton qui dit ceci, « Je ne sais pas ce que penseront de moi les générations futures. Quant à moi, je me fais l'effet d'avoir été tel un enfant qui, au bord de l'océan, a trouvé quelques coquillages épars, ça et là sur la grève, alors que l'océan lui-même, avec toute son immensité insondable, ne cesse de s'étendre sous mon regard » comme un grand mystère non déchiffré. Ce grand mystère non déchiffré n'est-il pas, par excellence, le lieu de l'abîme, de l'inconnaissable ? Je pense que tout ce que nous savons, et nous savons peut-être beaucoup de choses au XXIe siècle, avec toutes les découvertes qui ont été faites, par beaucoup de savants notamment et de philosophes, mais tout ce que nous savons, tout ce que nous pourrons encore savoir de nous-mêmes, de l'univers, n'est-il pas peu de choses comparées à l'abîme de l'inconnaissable ? Ne sommes-nous pas toujours débordés par ce qui nous dépasse ? Et là, je citerai volontiers, ou j'évoquerai volontiers Blaise Pascal. Blaise Pascal qui est probablement le tout premier physicien, philosophe, à s'interroger sur ce fameux texte où il parle des deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, et finalement, devant la quête de ce qu'est l'infini qui nous échappe, nous sommes devant un abîme puisque nous sommes finis, nous, et qu'est-ce que nous pouvons dire de l'infini ? Il y a un infiniment grand. Le thème du Big Bang, de l'expansion de l'univers que nous connaissons bien maintenant, le connote. Nous savons aussi que l'infiniment petit nous mène à la quête de qu'est-ce qui constitue la matière. Elle est faite d'atomes, mais qu'est-ce qui constitue les atomes ? C'est les quarks, c'est les éléments. Mais qu'est-ce qui constitue ces quarks ? Et on cherche, et on vient de trouver d'ailleurs, le boson de Higgs, qui est cette particule infiniment petite qui expliquerait pourquoi il y a de la matière et pourquoi la matière a une masse. Donc nous progressons, mais l'infiniment petit nous échappe dans sa racine, comme l'infiniment grand nous échappe dans sa cause originelle. Alors Pascal dit, au fond, l'homme, qui sait ? C'est cet être infiniment éloigné de comprendre la fin des choses et l'origine des choses. Cette fin et cette origine, dit-il, sont invinciblement cachées dans un secret impénétrable. Voilà les adjectifs chez Pascal. Nous sommes donc, dit-il, incapables de voir le néant d'où nous sommes tirés, puisqu'il nous échappe, vertige, et l'infini vers lequel nous tendons. Nous aimerions bien vivre toujours, être éternel et être éternellement heureux, mais nous ne connaissons pas cet infini vers lequel nous tendons. Donc, Pascal, de conclure, et cette phrase me paraît aussi saisissante dans un autre texte, l'ultime démarche de la raison humaine, c'est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui dépassent la raison. La raison est impuissante à tout expliquer. Autrefois, au XIXe siècle, les savants disaient « la raison expliquera tout, nous n'avons plus besoin de la foi ». Eh bien, je pense que si le savoir est magnifique quand on fait des découvertes, il a ses limites, et nous ne dépasserons jamais certaines limites, et nous serons toujours dans une attitude qu'on peut choisir, en effet, qui est celle du doute ou qui est celle de la foi.
Je remercie François Gachou pour la richesse de ses propos, mais il n'a pas tout dit encore. Et nous le retrouverons dimanche prochain pour la seconde partie de cet entretien. Je rappelle le titre de son livre « La philosophie comme exercice du vertige » paru aux éditions du Cerf, livre que vous trouvez en librairie. Voici encore une information importante. Dimanche prochain, on fêtera le Jeûne fédéral, la Fête fédérale d'Action de Grâce. Comme tous les deux ans, la célébration de la cathédrale de Fribourg, à laquelle participent nos autorités, sera une célébration œcuménique à 10h15, à laquelle les fidèles de toutes les églises et communautés chrétiennes sont invités. À toutes et tous, on proposera d'occuper la cathédrale, de la découvrir ou redécouvrir comme un signe fort dans la cité et dans la vie du canton, mais aussi comme un lieu privilégié où nous pourrons accueillir la parole de Dieu, la partager dans le souvenir actif de notre baptême et, pourquoi pas, trouver quelques réponses aux questions vertigineuses que posent aujourd'hui notre existence et la vie de la Suisse et du monde tels qu'ils vont plus ou moins bien. Venez-y nombreux. Les inspirations musicales de cette émission sont tirées des sonates de Domenico Scarlatti, interprétées par Christian Zacharias. Vous pouvez obtenir un enregistrement de cette émission en téléphonant au 026 422 18 91 ou prendre contact avec moi par un courriel à l'adresse internet n.ruffieux@bluein.ch. Je vous souhaite un beau dimanche.